VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 2 avril 2021. Depuis Washington, Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Prestation de serment du nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum. Il dénonce des crimes de guerre par des terroristes dans son pays. Nouvelle attaque au Burkina Faso. Au moins 6 personnes ont perdu la vie dans une attaque djihadiste, tandis qu'au Mali, 4 casques bleus ont été tués. Les pays du G7 appellent l'Érythrée à retirer rapidement leurs troupes de la région éthiopienne. Les pays du G7 appellent l'Érythrée à retirer rapidement ses troupes de la région éthiopienne du Tigré, en proie à un conflit depuis 5 mois. La Russie accusée de masser des troupes à la frontière ukrainienne met en garde les Occidentaux contre toute ingérence militaire. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Mohamed Bazoum, officiellement investi président du Niger ce vendredi lors d'une cérémonie officielle qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État. Dans son discours, le successeur de Mamadou Issoufou a accusé les djihadistes d'avoir commis des crimes de guerre. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Nous, Mohamed Bazoum.
C'est en présence d'une dizaine de chefs d'État africains que le nouveau président a prêté serment. Dans son discours d'investiture, la lutte contre le terrorisme a eu une part belle en termes d'ambition du nouveau président.
Le terrorisme est un vrai malheur pour notre pays. À Diffa, comme à Tillabéri et à Tawar, j'engagerai les actions pour mettre rapidement fin aux souffrances des populations dont la vie est empoisonnée par les rapts. Les paiements de rançon, les paiements de l'impôt aux groupes terroristes, les extorsions, les enlèvements d'animaux et les crimes systématiques. Nos forces de défense et de sécurité jouiront de mon plein soutien pour disposer de tous les moyens dont elles ont besoin pour le combat courageux qu'elles mènent contre le terrorisme.
Bazoum Mohamed a tendu sa main à l'opposition pour construire le pays et a promis de lutter ardemment pour une justice sociale. Il succède ainsi à Issoufou Mahamadou, une première dans l'histoire du pays où 2 civils élus se passent le témoin.
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi.
Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Attaque djihadiste à 140 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Au moins 6 supplétifs civils engagés dans la lutte anti-djihadiste ont été tués dans une embuscade à Dablo, dans le nord du pays. On fait le point avec Yacouba Ouedraogo.
Un groupe est tombé dans une embuscade dans la commune de Dablo. 6 éléments ont été tués et un autre a été blessé, affirme un des responsables des volontaires pour la défense de la patrie, des civils recrutés pour lutter contre les djihadistes. Ce groupe effectuait une opération de ratissage après la disparition d'un volontaire du village de Dou lorsqu'il a été pris pour cible, a expliqué ce responsable. Le 21 mars, 2 volontaires ont été tués lors de 2 attaques, 2 semaines après la mort de 5 autres lors d'une embuscade contre un détachement militaire dans le nord du pays. Créé en décembre 2019, les volontaires pour la défense de la patrie sont des supplétifs civils exerçant aux côtés des forces armées des missions de surveillance, d'information et de protection après une formation militaire de 14 jours. Ils font aussi office de pisteurs et combattent souvent aux côtés des forces de défense et de sécurité. Le nord du pays est la zone la plus touchée par les exactions djihadistes qui ont fait plus de 1200 morts et plus d'un million de déplacés internes.
Par ailleurs, 4 casques bleus de l'ONU au Mali ont été tués dans une attaque attribuée à des djihadistes ce vendredi matin contre leur camp à Aguelok dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a annoncé la mission des Nations Unies sur place. Les casques bleus ont vaillamment repoussé une attaque complexe perpétrée par plusieurs terroristes lourdement armés, indique la MINUSMA dans un communiqué. Une source au sein de la MINUSMA précise qu'il s'agissait de membres du contingent tchadien déployé dans cette localité, située à environ 200 km de la frontière algérienne. D'autre part, 2 soldats maliens ont été tués, 6 blessés, toujours ce vendredi, lors d'une attaque attribuée aux djihadistes dans le centre du Mali. Un officier malien affirme que 5 terroristes ont également été tués. Nous contrôlons la situation, a ajouté cet officier ayant requis l'anonymat. Selon un habitant de la localité, les assaillants ont occupé au moment le poste militaire avant de repartir. En Côte d'Ivoire, une dizaine de femmes ont témoigné au procès de l'ancien chef de milice Amadé Ouérémi sur la terreur qu'il a fait régner dans la ville de Djoué-Koué, théâtre des pires massacres dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en 2011, lors de la crise post-électorale. Surnommé le Seigneur, Amadé Ouérémi, 57 ans, comparaît depuis le 24 mars devant la cour d'assises d'Abidjan. Il est accusé d'assassinat massif. Il risque la prison à perpétuité. En Centrafrique, le chef du groupe rebelle 3R est mort. Selon ce groupe, l'un des plus puissants groupes armés de Centrafrique, Sidiki Abbas, est mort à la suite de blessures reçues lors d'une attaque en novembre. Le groupe 3R Retour, Réclamation et Réhabilitation indique que le général Sidiki Abbas est décédé le 25 mars 2021. L'annonce est donc faite par le général Bobo, un haut responsable du mouvement 3R, dans un communiqué. Les forces érythréennes doivent quitter la région éthiopienne du Tigré. C'est ce que réclament les ministres des Affaires étrangères des pays du G7. Ils le font dans une déclaration commune publiée par Berlin ce vendredi. Mamadou Oumfa.
Les pays du G7 se disent gravement préoccupés par les récentes informations faisant état de violations et d'abus des droits de l'homme. Il est essentiel que les crimes signalés fassent l'objet d'une enquête indépendante, transparente et impartiale et que les responsables de ces violations des droits de l'homme rendent des comptes, insiste-t-il dans la déclaration rendue publique par le ministère allemand des Affaires étrangères. Il salue tout de même l'annonce récente du premier ministre éthiopien concernant le retrait des forces érythréennes du Tigré, tout en appelant à la fin de la violence et à la mise en place d'un processus politique clair, inclusif et acceptable pour tous les Éthiopiens, y compris ceux du Tigré. Ce processus doit mener à des élections crédibles et à un processus de réconciliation nationale plus large, ajoutent les chefs de la diplomatie de l'Allemagne, la France, l'Italie, les États-Unis, le Canada, le Japon et le Royaume-Uni. Pendant des mois, les autorités d'Asmara et d'Addis Abeba avaient démenti la présence des forces érythréennes dans la région. Fin mars, le chef du gouvernement éthiopien, Abiy Ahmed, avait finalement reconnu leur présence et assuré qu'il quitterait la région à l'issue d'une rencontre avec le président érythréen.
En Tunisie, 3 djihadistes présumés, dont une femme qui a déclenché une ceinture d'explosifs, ont été tués dans des opérations des forces de sécurité dans les massifs montagneux du centre-ouest. Selon le communiqué du ministère de l'Intérieur, l'un des terroristes tués est un haut cadre d'une organisation affiliée au groupe État islamique, soupçonné d'être impliqué dans de nombreuses opérations terroristes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie, accusée de masser des troupes à la frontière ukrainienne, met en garde les Occidentaux contre toute ingérence militaire. Moscou avertit aussi Kiev de s'abstenir des provocations tout en assurant de ne pas vouloir de conflit. Le point avec Rosine Mounezero.
Washington assure Kiev de son soutien en cas d'agression russe et met en garde Moscou contre tout acte agressif. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, rétorque que Moscou prendrait toutes les mesures nécessaires en cas d'ingérence militaire occidentale en Ukraine. La France, qui a un rôle de médiateur, affirme pour sa part vendredi ne pas croire à une escalade des tensions tout en restant très prudente. Ces tensions naissent du conflit qui existe entre les forces de Kiev et les séparatistes pro-russes depuis 2014. Et Kiev soutient que Moscou prépare l'entrée de ses forces armées régulières dans les territoires séparatistes. Les tensions des derniers jours ont fait l'objet de discussions multiples entre hauts responsables militaires américains et ukrainiens, entre les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN et entre les états-majors de Moscou et Washington. Les forces américaines en Europe ont été placées cette semaine en phase de surveillance renforcée contre une crise imminente potentielle. Malgré des accords de paix signés en 2015 à Minsk et plusieurs rencontres entre les dirigeants russes et ukrainiens sous parrainage allemand et français, le règlement politique du conflit est au point mort.
Les États-Unis participeront la semaine prochaine à Vienne à des pourparlers avec les grandes puissances signataires de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Le porte-parole du département d'État affirme que Washington reste ouvert à des discussions directes avec l'Iran. Les principaux sujets qui seront évoqués sont les mesures nucléaires que l'Iran doit prendre pour respecter à nouveau pleinement les termes de l'accord international de 2015 et les mesures de levée des sanctions que les États-Unis doivent prendre pour les respecter à nouveau aussi, a déclaré Ned Price. L'Iran se dit prêt à revenir au respect complet de l'accord à condition que Washington lève d'abord ses sanctions. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
Au Mali, les producteurs de coton percevront pour la campagne 2021-2022 un prix d'achat bord champ de 280 francs CFA par kilo. Ce prix enregistre une hausse de 80% par rapport à celui annoncé lors de la session précédente. Par ailleurs, le gouvernement de Bamako maintient la subvention du prix des engrais à 11 500 francs CFA pour le sac de 50 kilos. Le coton contribue à 15% au PIB du Mali et représente jusqu'à 45% de ses recettes d'exportation. La société sénégalaise Elton Group veut investir environ 70 milliards de francs CFA pour une structure capable de fournir de nombreux services gaziers au port autonome de Dakar. Une fois la construction achevée, ce port sera le premier en Afrique à accueillir des navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié. Avec une capacité de stockage de 140 000 mètres cubes, l'infrastructure alimentera aussi les pays voisins, renforcera la chaîne de valeur du gaz domestique et générera des emplois. Terminons par les pays producteurs de pétrole de l'OPEP qui ont décidé hier d'alléger progressivement leur coupe de production d'or noir à compter du mois de mai face à une reprise soutenue par les campagnes de vaccination contre le COVID-19 et les politiques de relance dans les économies clés. Les pays concernés augmenteront collectivement leur niveau actuel de production de 350 000 barils par jour de mai en juin et de 450 000 barils par jour en juillet.
Présent la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. La Ligue des champions a repris sur le continent après la trêve internationale. Deux matchs de la poule B aujourd'hui. Dans le premier, Al-Hilal et Mamelodi Sundowns déjà qualifiés. Enfin, match nul 0-0 à suivre ce soir à Alger, CR Belouizdad, tout puissant Mazembe. Tous deux à la lutte pour la qualification. En cas de défaite, les corbeaux de Lubumbashi seront éliminés. À suivre demain, Al-Merrekh du Soudan, Al-Ahli d'Égypte, l'AS Vita Club de la RDC reçoit Simba de la Tanzanie, le Petro Atlético fera face au Oroya de la Guinée, les Sénégalais de Tenguef jouent à domicile contre l'Espérance de Tunis, le MC Alger reçoit le Zamalek d'Égypte, Kaiser Chiefs fait face au Wydad Casablanca. Démarrage demain samedi du championnat de football de première division au Togo, après un an de suspension pour cette reprise dans un contexte pandémique. Des mesures particulières ont été prises par les autorités sportives du pays qui imposent un nouveau format à la compétition. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Dans un communiqué, la FTF, Fédération Togolaise de Football, informe que ce championnat est organisé en deux poules de 8 équipes pour limiter les contacts. À l'issue des matchs de poule en aller-retour, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les play-offs qui se joueront sous la forme d'un mini-tournoi à 4. La FTF indique que les derniers de chaque groupe seront relégués en division inférieure. Elle rappelle que ce championnat est prévu pour durer 3 mois. Comme dans beaucoup de pays dans le monde, les matchs se joueront à huis clos sans spectateurs. Les tests PCR sont exigés avant chaque rencontre pour les joueurs, le staff technique et les dirigeants qui seront présents sur le terrain. La reprise de ce championnat de football est un gros challenge pour le Togo, à un moment où le pays enregistre quotidiennement plus de 100 nouveaux cas de COVID-19. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Ici, en NBA, Brooklyn, large vainqueur de Charlotte 111-89, a conforté sa nouvelle première place de la conférence Est, s'adjugeant une 20e victoire à domicile durant, tandis que leurs dauphins de Philadelphie ont tenu bon
à Cleveland 114-94 et que les Clippers ont déchanté face à Denver 94-101. Les Hawks d'Atlanta ont battu sur le fil les Spurs de San Antonio 134-129 à l'issue de deux prolongations. Le score a également été serré entre Denver et Los Angeles. Les Nuggets triomphant finalement des Clippers 101-94. Enfin, à la Nouvelle-Orléans, Orlando s'est imposé 115-110.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Le nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum, a prêté serment ce vendredi, deux jours après une tentative de coup d'État. Plusieurs chefs d'État ont pris part à la cérémonie d'investiture. Le successeur de Mamadou Issoufou aura plusieurs dossiers brûlants sur sa table, la lutte contre les djihadistes, la corruption et la pauvreté. Pour en parler, Timothée Donangbaye a joint à Niamey le professeur Issoufou Yahya, il est politologue.
Moi, quand je l'ai connu, il était professeur de philosophie au lycée de Tawa en 85. Il a fait beaucoup de chemin puisqu'il était syndicaliste quand il était étudiant en philosophie au lycée Cheikh Anta Diop de Dakar, avant donc de faire son service civique au lycée national de Tawa à l'époque, puis syndicaliste dans le milieu enseignant, avant justement de bénéficier de la conférence nationale souveraine pour amorcer un virage dans la politique, puisque c'est à partir de 91-92 qu'il a fait sa première entrée dans le gouvernement.
Le président Bazoum promet de faire de l'éducation et de la sécurité ses priorités. Comment pourra-t-il relever le défi sécuritaire avec d'un côté les attaques de Boko Haram et de l'autre celles des groupes djihadistes?
Bon, vous savez, il est resté dans le gouvernement pendant beaucoup d'années comme ministre de l'Intérieur, au moment où il y a eu toutes les attaques qui ont le plus endeuillé l'armée nigérienne. Alors, je pense qu'il n'est pas à 100% comptable de cela, puisque le président Issoufou était à la fois dans la réalité ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, président de toutes les institutions. Il n'a laissé aucune marge aux autres responsables. Je pense que quand il était enseignant, M. Bazoum s'affirmait, il avait des prises de position. Lorsqu'il y a eu cette volonté de discuter avec les syndicats enseignants à partir de 2015-2016, c'était lui qui était aux avant-postes, éclipsant même les différents ministres en charge de l'enseignement. Il y en avait 6. Donc, moi, je pense que ayant enseigné, connaissant l'enseignement, et on peut lui faire pas totalement confiance, mais pour l'instant, le bénéfice de ses déclarations, lui donner le temps de poser d'abord ses valises, puisque pour beaucoup, M. Bazoum ne représente que le troisième mandat que Issoufou n'a pas pu faire. Donc, il aura d'abord le temps de s'asseoir, de couper le cordon ombilical avec la gouvernance du président Issoufou, qui a abîmé la fonction présidentielle, et peut-être faire un pas en direction des syndicats de l'enseignement, un pas vers l'opposition, un pas vers les organisations de la société civile, parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, sa marge de manœuvre est étroite à partir du moment où il a l'opposition qui conteste sa victoire.
C'était le professeur Issoufou Yahya, politologue à Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h/24.
En République démocratique du Congo, l'entretien de deux premiers ministres a déjà coûté près de 7 millions de dollars en 3 mois, alors que la présidence de la République enregistre des dépassements de dépenses de près de 113%, amenuisant les chances du pays à mobiliser 3,5 milliards de dollars de recettes fiscales cette année, donc prévient l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique. Eddy Songo a joint à Kinshasa le président du conseil d'administration de l'ODEP, le professeur Florimond Muteba Chitenge.
3 mois, 2 premiers ministres. Au total, fin mars, ça va nous coûter à peu près 7,5 millions, ou les deux. Est-ce que ça valait la peine dans un pays que vous connaissez, qui est un pays où déjà on a du mal à mobiliser les recettes fiscales? Vous savez qu'aujourd'hui, nous arrivons à peine à mobiliser 250 millions de dollars par mois, alors que nous dépensons plus de 270. C'est-à-dire qu'il y a un déficit budgétaire permanent d'environ 15 à 20 millions de dollars. Prenez en moyenne une école dans sa construction coûte aux environs de 100 000 dollars. Une école donc de 6 classes. Sauf si elle est équipée par exemple avec des ordinateurs ou du matériel technique pour les écoles techniques, ça peut arriver à 150 000 dollars. C'est un peu la division. Vous allez voir le nombre d'écoles qu'on aurait pu construire. Dans cette période où on parle de gratuité.
Vous dites dans votre rapport qu'en 2 mois, la prise en charge de 2 premiers ministres a coûté 4 millions et demi. Qu'est-ce qui explique cela?
D'abord, il y a les remoniements d'un côté et il y a toute la logistique qui accompagne la vie d'un premier ministre. Pour celui qui est au pouvoir, il n'y a pas que lui-même, il y a tout son cabinet, etc., etc. Pour celui qui n'est pas au pouvoir, il ne loge pas dans une maison à lui, par exemple. Il est dans un hôtel de luxe avec toute son équipe qui l'accompagne, son cabinet. Il y a toute la logistique des transports, des déplacements, donc... Il y a toute la logistique qui l'accompagne, qui fait qu'au total, tous les deux, nous coûtent environ 2,5 millions par mois. Et donc, d'ici la fin de mars, ils vont nous coûter aux alentours de 7 millions de dollars.
Il y a bien une résidence pour le Premier ministre en RDC.
Qui pour l'instant est encore occupé par celui qui est là. Mais en même temps, l'autre, il vit dans l'hôtel le plus cher de Kinshasa. Le sel du fleuve, dans une suite digne de son rang. Ce sont des suites qui vous coûtent jusqu'à 8 000 dollars par jour, hein, une suite présidentielle à l'hôtel du fleuve. Donc la suite, la restauration pour lui, pour tous ceux qui l'accompagnent, les déplacements en fanfare avec tous ces véhicules qu'il faut entretenir.
Ce n'est pas la première fois que la présidence de la République de la RDC réalise des dépassements en termes de dépenses. Quelle année l'ampleur et l'impact cette fois?
Les dépassements conviennent aussi de nombre de personnes qui sont maintenant à la présidence. Il y a au moins, je crois, 1100 et quelques agents. Et donc, les plus gros dépassements sont venus, entre autres, des salaires.
C'était Florimond Moutemba Tshitende, président du conseil d'administration de l'ODEP et professeur en économie et finance à Kinshasa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Cameroun, 7 partis politiques de l'opposition ont créé hier une plateforme visant à proposer une réforme du système électoral camerounais. La plateforme entend élaguer les nombreux désaccords, les dispositions obsolètes, les contradictions et vides juridiques contenus dans le code électoral actuel. Les figures de proue de l'opposition comme Maurice Kamto, Joshua Ossi ou encore Cabral Libi sont engagées dans cette démarche de Yaoundé. La correspondance d'Emmanuel Jultap.
La plateforme est née à l'issue d'une concertation qui s'est tenue mercredi et a été sanctionnée par la signature d'un communiqué conjoint, lequel a fait l'objet d'une conférence de presse au siège de l'Union démocratique du Cameroun, dirigée par Patricia Ndamjoya, maire de Foumban, dans la région de l'Ouest. Les 7 signataires s'engagent à travailler ensemble pour mettre en place un système électoral nouveau ou amendé pour la stabilité du Cameroun. Pierre Kouemou, président de l'UMS, l'Union des mouvements socialistes.
Nous avons ouvert un secrétariat technique pour recueillir ces manquements à notre niveau. Chacun peut déjà avoir quelque chose. Mais on ne peut pas déjà clôturer ces manquements. Nous rendez-vous après le 15.
D'après le communiqué final, un secrétariat technique est chargé de recevoir les contributions des autres partis politiques, des organisations ou personnalités de la société civile jusqu'au 15 avril prochain. Le président du MRC, Maurice Kamto, a également apposé sa signature au bas du document. mais n'a pas souhaité s'exprimer au cours de la conférence de presse, laissant le soin aux autres présidents de partis politiques signataires de se prononcer.
Les partis politiques signataires assurent le peuple camerounais de leur engagement à aller jusqu'au bout de cette démarche.
Cabral Libi, président du PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale.
Ce groupe de travail s'est réuni, a produit un résultat. Nous venons de le livrer. Ce groupe de travail va continuer à travailler, va produire un résultat. Et chaque fois qu'il y aura un résultat, ce groupe de travail vous le donnera.
Au Cameroun, les acteurs politiques de l'opposition ont rarement pu mener un front commun. Pour la cause actuelle, la présidente de l'UDC, Patricia Ndamdjoya, espère une nouvelle donne contre cette mauvaise réputation.
C'est la première fois que des partis politiques se retrouvent pour viser un objectif national. Et à la fin, nous allons avoir un code électoral qui pourra permettre aux Camerounais d'aller aux élections le torse bombé.
Le sous-préfet du premier arrondissement de Yaoundé et les forces de maintien de l'ordre ont voulu interdire la conférence de presse des 7 leaders de l'opposition, allant jusqu'à exiger que les personnes autres que les militants de l'UDC quittent le siège du parti, ce que Patricia Ndamdjoya n'a pas concédé. Au lendemain de l'élection présidentielle de 2018, l'opposant Maurice Kamto et plusieurs militants de son parti, le MRC, avaient été interpellés pour avoir participé aux marches demandant la réforme consensuelle du code électoral. Yaoundé, Emmanuel Junetap, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Congo-Brazzaville, la campagne de vaccination contre le coronavirus lancée en début de semaine draine des foules. Contre toute attente, les centres de santé retenus pour cette opération sont débordés alors que les autorités appellent les populations à prendre le vaccin pour se mettre à l'abri de la pandémie. Reportage de Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Alors que le scepticisme face au coronavirus avait atteint une ampleur inquiétante, l'engouement de la population pour la vaccination contre ce virus est surprenant. Quelques jours seulement après le vaccin du président Denis Sassou Nguesso, les centres sélectionnés à Brazzaville et à Pointe-Noire, les deux principales villes du pays, sont pris d'assaut par la population. Incroyable pour une campagne de vaccination qui cible pourtant des catégories socio-professionnelles. Ceux qui reçoivent leur première dose réagissent et appellent les autres à faire autant.
Aujourd'hui, je viens de me faire vacciner. C'est ma façon aussi d'inviter, sinon d'encourager l'ensemble des jeunes Congolais à en faire autant.
C'est aussi me protéger moi-même pour ne pas éventuellement attraper la COVID-19.
Je viens de prendre le vaccin russe. Oui, je me sens bien. Depuis la piqûre jusqu'à maintenant, ça va.
Aux autres qui ne sont pas, qui sont réticents de venir se faire vacciner parce que ils vont se protéger contre cette pandémie qui est en train de ravager ce monde.
Pourquoi il était important, sinon indispensable pour nous, agents de force, de se faire vacciner?
Dans les centres de santé, l'organisation est minutieuse. Docteur Annick Bert Ndawana, directrice de l'hôpital de Makelele.
Au début, c'était timide, mais là, on commence à voir des foules s'attrouper. Nous avons mis à la disposition du programme de vaccination notre centre et nous avons mis à la disposition de l'équipe aussi une partie de notre personnel.
À l'hôpital Blanche Gomez, le coordonnateur de la vaccination, Dr Julien Ganongo, est à la manœuvre pour éviter les débordements.
Je peux vous dire que l'engouement est au-delà de nos attentes. Parce que nous avions cru avant qu'on pouvait avoir un nombre de 100 vaccinés par jour. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 par jour. Et parce que il y a une heure à laquelle on doit arrêter. Sinon, jusqu'à 18h, les gens continuent à venir. On pourrait vacciner 300, 500 par jour.
La population a gratuitement le choix entre deux vaccins. Le chinois Sinopharm et le russe Sputnik V. Le gouvernement a confirmé une commande de 1 million de doses pour chacun de vaccins. Objectif, vacciner pour un premier temps jusqu'à 60% de la population. Les autorités encouragent les populations ciblées à prendre leur vaccin. Pierre Ngolo, le président du Sénat, a pris son vaccin.
Nous sommes venus nous faire vacciner pour passer le message aux autres citoyens.
que nous n'avons pas d'alternative. Nous avons intérêt à nous faire vacciner.
Le Congo a enregistré 136 décès sur plus de 8000 cas de Covid-19 depuis une année. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Lionel Gaïma et Michel Joseph. À la présentation, Abdourahmane Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.